Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui donne la parole aux femmes, aux mères, de façon positive et bienveillante. Et oui, on dit d'elles qu'elles sont douces, résilientes, fortes et même puissantes. Mais finalement, que sait-on vraiment de ce qu'il se cache derrière tous ces chemins de vie? Je suis Lou, la créatrice de ce podcast, et je vous embarque chaque semaine à la découverte d'une de ces trajectoires de mère. Grâce à ces histoires sincères et positives, Supermama peut donc remplir la plus belle de ses missions, qui est de rassurer, informer et déculpabiliser les futures mamans. J'espère de tout cœur que ces moments de vie immortalisés vous permettront de retrouver espoir et confiance, et qu'ils vous rappelleront surtout que quoi qu'il en soit, nous sommes toutes des Supermamas. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous partager l'histoire de Marie, atypique et surtout remplie d'espoir. Marie est tombée enceinte une première fois, sans même le savoir, et a vécu ce qu'on appelle un déni de grossesse. Une expérience spéciale qui lui a finalement permis de faire la rencontre de sa première fille il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant. Puis c'est en se lançant dans un nouveau projet bébé que les choses ont commencé à se corser. Après le diagnostic des ovaires polykystiques posés, le personnel médical est clair. Il va falloir se faire aider médicalement pour espérer une nouvelle grossesse. Alors, comment accepter que cette fois-ci, notre corps a besoin d'aide pour créer la vie alors qu'elle était venue se nicher hyper rapidement la première fois? Comment garder espoir quand notre parcours est semé d'embûches, qu'on vit deux fausses couches et qu'on suit un protocole lourd et long? Comment rester motivé en voyant les années défiler mais toujours pas de bébé pointer le bout de son nez? Dans cet épisode, Marie lève le voile sur des sujets encore tabous comme la fausse couche et la PMA. Elle partage avec générosité et bienveillance son expérience pour, à son tour, aider d'autres femmes, d'autres couples dans la même situation. Ce que je retiens de cet échange, c'est la force de Marie. La force dont elle a dû faire preuve pendant ces années de combat qui lui ont finalement permis d'accéder à la victoire, celle de tenir aujourd'hui dans ses bras son bébé arc-en-ciel, comme elle l'appelle. Merci à Marie d'être revenue sur ces années d'épreuves et de combats. Je vous laisse de suite avec son histoire et ne soyez pas étonnés d'entendre des petits bruits de bébé car Antoine, son fils, et Léa, ma fille, étaient de la partie. Très belle écoute.
Coucou Marie, merci beaucoup d'être sur le podcast de Super Mama avec moi. Je suis hyper contente de t'avoir. C'est un petit moment qu'on se connaît grâce à la magie d'Instagram. Du coup, aujourd'hui, j'ai la chance de te recevoir à mon micro. Donc, merci pour ça. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots?
Bah oui. Alors moi c'est Marie, j'ai 36 ans, bientôt 37, maman de deux enfants, d'une grande de 13 ans, donc très très grande, et d'un tout petit qui n'est pas si petit que ça puisqu'ils ont 3 ans. Donc ouais, effectivement, mes enfants ils ont 10 ans de différence, mais c'est là où je vais raconter, te partager mon histoire et le pourquoi de ces 10 ans.
Bah ouais, carrément. Alors comment ils s'appellent tes petits?
Alors, ma grande, elle s'appelle Annaline.
Oui.
Et mon petit s'appelle Antoine.
Antoine, ok. Et tu partages ta vie avec, avec qui, Marie?
Alors, je partage ma vie avec mes enfants et mon mari qui là est au travail.
Ouais, ok, ça marche. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet et de ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quel cadre familial tu as grandi?
Alors, j'ai grandi dans un cadre familial où papa et maman sont divorcés.
Ouais.
Donc, d'un côté avec un frère et de l'autre côté où ma maman va faire sa vie avec son compagnon de l'époque et qui va avoir 3 enfants par la suite. Donc, issue d'une famille nombreuse
Ouais.
et d'une fratrie composée que de garçons.
Ok, t'es la seule fille parmi tous ces enfants.
Exactement. Je suis la seule fille sur ces 5 enfants et c'est assez, enfin, c'est pas assez agréable, mais des fois c'est compliqué. Et puis avec pareil, avec des différences d'âge, donc avec mon frère on a 13 mois de différence.
Ok, oui, donc c'est plus proche.
Ensuite. Ensuite, on a le premier fils de ma mère avec qui on a 8 ans. Le deuxième, on en a 12. Et le dernier, on en a 19. Donc, ça fait vraiment un écart générationnel très, très grand. Donc, effectivement, je grandis dans ce contexte-là où d'une famille presque recomposée. Hein, on va mettre les mots
Bien sûr. Ouais.
On va mettre les mots, hein, on va y mettre les formes, hein, n'ayons pas peur, hein. Donc voilà, aujourd'hui je vis dans cette optique où papa, maman sont mariés, ont des enfants, ont un foyer ensemble et portent le même nom. Au début, c'est pas forcément ce que tu veux. Parce que quand tu sors d'un cadre comme ça, tu fais ouais, c'est. Tu dis ouais, c'est pas accessible pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde en fait. Et puis au final, t'apprends au fur et à mesure, et puis bah, tu rencontres ta moitié, et puis très vite, Alors déjà, il faut savoir que mon mari et moi, on a déjà 7 ans de différence. Donc quand moi je l'ai rencontré, j'avais 20-21 ans. Donc c'était déjà assez très jeune. J'étais déjà très jeune et lui, il en avait déjà 27 à l'aube de vouloir fonder une famille, en fait.
Du coup, est-ce que tu avais une bonne entente avec cette famille composée de personnes de tout âge?
Non.
Non, pas du tout.
Non, avec ma maman, on a une relation qui a été assez difficile, mais qui s'est soignée au fil des années. Et puis, beaucoup, qui s'est vraiment... Qui est vraiment mieux depuis ces dernières années. Mais on a eu au final aujourd'hui je suis contente parce que voilà la relation est là, mais ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui ça l'est, donc c'est cool.
Ouais, tant mieux. Et du coup, ton mari, quand tu l'as rencontré, bon, forcément, c'était pas encore ton mari, est-ce que vous avez parlé d'enfant rapidement? Lui, comment il se situait justement
Alors,
dans ce projet?
lui déjà, il avait déjà 27 ans, donc 27 ans, presque 30. Il m'avait toujours dit, moi j'aimerais bien avoir un enfant, soit avant mes 30 ans ou pour mes 30 ans. Et quand t'as 21 ans, tu fais, attends, je réfléchis. Et en fait, la question, je lui dis, ça viendra quand ça viendra, si voilà. Et au bout de 3 ans de relation, donc on était quand même installés, j'avais une situation, et ça se fait. Donc du coup, après ça a été un peu rock'n'roll parce que moi qui était tout le temps malade sur ce coup-ci, je savais pas si c'était donc je décide de faire quand même un test de grossesse et il se révèle négatif. Bon, pour moi, j'ai une gastro. Donc je vais voir mon médecin de famille à qui ça fait sourire parce que donc il me soigne et tout et une semaine après je reviens parce que ça passe pas et il me préconise une prise de sang. Et là, du coup, je fais ma prise de sang et je la prends un 1er avril. Je vais au laboratoire un 1er avril. Du coup, la secrétaire médicale me donne la petite enveloppe des analyses et tout. Et là, je lui dis, mais je comprends pas tout. En fait, pour moi, là, c'est du chinois. Donc, je comprends rien. Et là, elle me regarde. Et elle me dit, ah ben là, vous avez un petit pied qui pousse dans votre ventre. Quoi? Pardon?
Mais encore.
Regarde mon téléphone, je fais, on est le 1er avril, ok, votre blague, elle n'est pas drôle en fait. Elle fait, ah non, 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 regardez, c'est écrit. C'est pas une blague. Donc, je pose mes lunettes de soleil sur le comptoir et là, je commence à pleurer toutes les larmes de mon corps parce que. J'étais pas du tout, mais.
Ouais, tu t'y attendais pas, quoi.
Ouais, je m'y attendais pas. Et donc là, tu te dis, mais comment c'est possible? Mais what the fuck, quoi.
Ah bah
Tu
ouais, tu
sais.
m'étonnes.
Attends, 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 attends. Donc ça fait déjà un trimestre. Et là.
Oh, t'étais enceinte de 3 mois déjà? Oh, ah ouais, incroyable. Oh, le choc.
Et en fait, donc, du coup, par la suite, bon, je prends les rendez-vous nécessaires avec le gynéco, etc., etc. Et là, il me fait entendre le son du battement du
Ouais.
cœur de mon bébé. Et là, je ressors, j'étais encore plus en larmes, genre, mais attends, c'est pas possible en fait.
Ça
Et en fait,
devenait
j'avais fait.
concret,
Non, ça devenait concret. C'est devenu concret au moment où j'ai accepté dans ma tête que j'avais un bébé dans le ventre. Donc là,
ouais.
tu fais le dé. J'étais enceinte de. Puis les mois sont passés, hein. Donc du coup, le jour où tu l'acceptes, ton ventre, il sort tout seul.
Ouais, au bout de
C'est
combien de mois de
psychologique.
grossesse, du coup, toi, t'as eu vraiment cette acceptation qui s'est faite dans ta tête?
Le jour où on m'a dit que j'attendais une petite fille, donc du coup je devais être enceinte de 25 mois
Bien
et
sûr, ouais, la deuxième écho.
donc je vais me coucher, j'avais un ventre tout plat.
Ouais.
Je me lève le lendemain, donc suite à cette deuxième écho, je me lève le lendemain, le ventre, il était sorti et je regarde. Et c'est là que j'ai pris conscience que bah j'allais devenir maman et que j'attendais un bébé.
Ouais,
Et là
bien
tu fais,
sûr.
et là tu fais, oh là 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 là, c'est quoi encore cette histoire? C'est quoi ce bazar? Le soir tu te couches, t'as un petit ventre comme si t'avais trop mangé,
Ouais.
t'avais fait une grosse raclette avec les potes et tout. Le lendemain, t'as l'impression d'avoir ingurgité une pastèque entière avec la peau. Et là tu fais. Ah oui, d'accord. Mais
Ouais, là
c'est quand
c'est
même
bien palpable.
c'est assez surprenant. Hein. Franchement, c'est psychologique.
Ouais.
Tu dis et c'est là où tu dis c'est quand même fou la tête et le corps sont
Sont
liés
liés,
et
bien sûr.
que quand tu l'acceptes pas, et ben c'est comme si tu vivais une vie mais normale et puis
Ouais.
du jour au lendemain ton ventre qui sort comme ça et tu fais ah ouais c'est pas et là tu fais bon ok j'ai dû enfin
T'étais comment? T'étais contente? T'étais anxieuse? Quels étaient les sentiments qui t'animaient à ce moment-là?
alors quand tu fais un déni de grossesse déjà de un trimestre tu fais mais what the fuck comment je vais faire alors il faut savoir que quand je suis tombée enceinte j'avais 23 ans donc 23 ans pour beaucoup c'est un âge où tu as encore t'es encore assez enfant,
Ouais,
enfin, t'es grand, t'es
t'es jeune,
adolescent.
ouais.
J'aime bien ce mot, t'es
Ouais.
adolescent. Et oui, ah ouais, et tu te dis, attends, c'est un enfant qui va avoir un enfant.
Ouais, c'est le sentiment que t'as eu.
Et ce sentiment-là, tu fais, comment c'est possible en fait? Un enfant qui va avoir un enfant, what the fuck? Comment tu fais? Et puis, en fait, je l'ai vécu au feeling. Franchement, je l'ai vécu au feeling. C'était une grossesse, bon, bah voilà, c'était une grossesse surprise. Je savais qu'à un moment donné ou un autre, j'allais tomber enceinte, mais d'avoir une surprise comme ça, tu fais, ah ouais, non,
Tu t'y attendais
c'est.
pas, quoi.
Bon, voilà, et puis, au final, bah, je l'ai quand même bien vécu. Sur toute la fin de grossesse, puisque mon mari m'avait bien accompagnée et tout, on était quand même très contents. Enfin
Ouais.
voilà. Mais par contre, là où je l'ai moins bien vécu, c'est le côté. On ne dit pas de la maternité, de la grossesse, bah, que tu peux être malade tout le temps.
Ouais.
Après, je pétais la forme. Hein. Juste, j'avais ces petits désagréments des crampes. J'étais malade,
Ouais, t'avais
on
quoi, des
pouvait.
vomissements, des choses comme ça pendant toute ta
Ouais,
grossesse? Ah
ouais,
ouais.
ouais, ouais. Du jour zéro au jour jusqu'à
Jusqu'à
ton accouchement.
l'accouchement. Oh, ah ouais, et ça, les médecins, ils te comprenaient, ils t'écoutaient, ou ils te disaient, oh, bah écoutez, madame, c'est normal, vous êtes enceinte, comment ça se.
Bah,
Comment ils réagissaient?
moi, mon gynécologue, il me disait, bah, il y a beaucoup de femmes qui sont dans votre cas, donc on va quand même surveiller,
Ouais.
mais vous n'êtes pas, etc., etc. Et tu passes parmi l'émotion parce que les hormones, bah, quand les hormones arrivent, bah, tu sais pas, mais tu vas t'acheter un truc sur Internet et bah, tu vas te mettre à chialer parce que pour rien.
Oui, bien sûr, tu te sentais très sensible à fleur de peau.
Ouais, c'est ça. Et puis après, bah, fi au final, quand c'est là, c'est là. Et puis voilà.
Ouais, bah ouais. Et
Mais
comment tu t'es préparée à l'accouchement, du coup? Est-ce que t'avais suivi des choses en particulier ou t'allais plutôt au feeling?
ah, j'y suis allée, mais au feeling. Hein.
C'est
J'y suis allée au talent.
vrai?
Ah ouais. J'y
Tu
suis
prenais
allée
pas
au
la
talent.
tête?
Ah
Ouais.
non, non, non. Moi, je suis quelqu'un qui me prend absolument pas la tête. On me disait, non, mais c'est bien, les cours d'accouchement, faut peut-être le faire et tout. Bla. Blabla. Hein, quoi? Des cours de quoi? Non,
Ouais,
non,
ça me
non, non.
parlait pas, quoi.
Je viens déjà d'apprendre que
Oui.
j'étais enceinte il y a plus longtemps que ça, donc vas-y, les cours d'accouchement, on verra ça plus tard. Hein, et au final, on m'avait conseillé aussi de jouer avec une bougie, donc j'ai posé une bougie sur mon ventre pour travailler la respiration. Le
Ah
but du
ouais.
jeu étant de ne pas l'éteindre, donc avoir une respiration régulière et plutôt pas faible, mais bien,
Ouais,
bien
contrôler
posée.
quoi.
Contrôler pour que ça soit que la bougie ne s'éteigne jamais. Bon, bah, j'ai joué à ça.
Ouais.
J'ai joué à ça et puis bah, c'était cool. Et puis bah, le jour J, en fait, ça s'est pas passé
Comme prévu.
comme prévu parce que
Comme
j'avais
c'est bon.
déjà j'avais un bassin tout petit, donc il savait pas si le bébé allait passer, donc il a fallu prendre un rendez-vous avec lui. Avec pour une césarienne, avec le chir et tout, tu fais ouais, ok.
Ah, c'est oui, ton bassin n'était pas assez large selon eux pour que tu accouches par voie
C'est
basse.
ça.
Ok.
Pour par voie basse, je pouvais pas. Enfin, eux, ils estimaient que de mon petit 34 de l'époque, c'était compliqué.
Ouais.
Et du coup, ouais, non, tu fais bon, ok. Donc, toi, tu prends rendez-vous avec un anesthésiste et tout, tu fais quand même le nécessaire. Et puis en fait, le jour J, faut savoir que pendant moi, toute ma grossesse, enfin, toute la seconde partie de ma grossesse, j'avais des contractions nerveuses. Donc du
Ah,
coup,
OK.
j'avais des contractions qui me faisaient déjà mal. Et le jour de l'accouchement, le jour où j'ai accouché, bah, mes contractions que j'avais, c'était du pipi de chat, en fait. Elle me faisait moins mal.
C'est vrai?
J'avais l'impression qu'elle me faisait moins mal que mes contractions que j'avais
Grossesse.
pendant grossesse.
Ah
Et
ouais, c'est fou ça.
en fait, j'ai accouché bah, déjà par voie basse en express. Et ouais, ouais. Et
Ouais,
en fait, au
contrairement à ce
milieu
qu'on t'avait prédit, quoi.
Et en fait, en milieu d'accouchement, je fais non mais c'est bon là, je suis fatiguée les gars, faites remonter la tête et puis allez me chercher l'anesthésiste.
Ouais.
et en fait, au final, déjà je suis tombée sur une sage-femme merdique et tout, qui m'a dit ah non non le bébé il est là, moi j'ai pas pris mon café, je suis là depuis hier soir, là il va falloir pousser. Ah ouais, c'est psychologique, hein. Il va falloir pousser et puis voilà. Et puis au final, j'ai accouché très très vite parce qu'en 30 minutes, c'était fait.
Ah
Donc ma.
ouais, accouchement express.
Ah ouais, express de chez Express.
Contre toute attente.
J'arrive à 9h. J'arrive à 9h, le temps qu'on m'examine et tout. Je passe en salle, il doit être quoi, 10... ouais, un peu moins de 10h.
Ouais.
On en ressort 10h30, le bébé, il était là, quoi.
Oh, ah ouais, truc de fou, t'as eu le temps d'avoir la péridurale ou pas du coup?
Absolument pas.
Ah
Non, moi
ouais!
j'ai rien eu. Non, j'ai rien eu, pardon.
Ah
Ah,
bah dis
mais.
donc!
Du coup, cette sage-femme-là m'a quand même aussi très. C'est traumatisant, hein, mais
Bien sûr!
ça, tu le vis. Au final, tu dis, ouais, non, mais peut-être que ça pourrait se passer autrement. Et du coup, ça m'a quand même refroidi
Ouais!
longtemps. Et puis voilà. Et puis l'idée d'en avoir un deuxième, c'était rédhibitoire. Au début, déjà que j'en voulais. Au début, j'en voulais pas. Et puis au
Ouais.
final, tu dis bon bah un, c'est bien aussi, hein.
Ouais, super. Super. Et du coup, oui, tu voulais pas de deuxième, tu t'es dit non, c'est bon, on sera bien à trois.
Je n'en voulais. En fait, je n'en voulais pas. Et au final, bah. Bah, tu vois, j'en ai un deuxième.
Alors justement, comment c'est devenu en parler avec ton mari? Est-ce que c'est venu longtemps après ton premier accouchement? Comment c'est venu sur la table?
En fait, si tu préfères, mon mari, il en a toujours voulu un deuxième.
Ouais.
Il en a toujours voulu un deuxième. Lui fait partie d'une famille de deux. C'est le plus petit.
Ouais.
Et du coup, bah, je savais qu'il en voulait un deuxième, mais pendant très longtemps, moi, je n'en voulais pas. Et en 2015, 15-16, est venue sur la table, bah, let's go, faisons un deuxième.
Ouais.
Et du coup, un jour, j'étais au travail. Et j'avais hyper mal au niveau du bas-ventre et au niveau des ovaires. Et donc là, à ne pas pouvoir me lever, en fait, à ne pas pouvoir me lever, à avoir mal, mais comme jamais. Et donc, du coup, au lieu de prendre rendez-vous chez mon médecin généraliste, je prends rendez-vous chez le gynécologue tout de suite. Et il me dit, ah bah, et là, le verdict tombe, bah, tu as des ovaires, tu as des kystes aux ovaires. Enfin, c'est pas vraiment
Ouais.
des kystes, c'est des boules. Enfin, bon, c'est assez compliqué. Et cette maladie est compliquée, en fait, en soi. Et
Est-ce que c'est ce qu'on
du
appelle
coup.
le syndrome des ovaires polykystiques? Ouais, c'est ça? Ok.
Exactement. Enfin, moi, j'ai eu par d'abord des kystes, ils appellent ça au début des kystes fonctionnels. Donc, les kystes
D'accord.
fonctionnels, ça va pas bien. Et encore aujourd'hui, bah, ça va, ça vient.
Ouais.
ça te fait des perturbations dans le corps, mais absence de règles pendant très longtemps. Donc, encore aujourd'hui, hein, je peux avoir mes règles, comme ne pas les avoir pendant un trimestre, un semestre.
T'as
Je
pas
peux
du tout
les
de
avoir.
cycle régulier.
Pas de cycle régulier. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, au début, il te dit, si vous voulez un enfant, on va commencer comme ça. Donc, on va provoquer les règles. Donc, j'ai eu du Duphaston, des traitements à base de Duphaston et puis acide folique pour, voilà. Et en fait, on voit que ça ne marche pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois. Et puis au final, au bout de 5 ans, ouais, c'est ça, juste 1 an et demi après le mariage, donc en 2017-18, je tombe naturellement enceinte, mais au final, je fais une fausse couche au bout de 3 semaines. Donc déjà, c'est assez traumatisant parce que tu te lèves un matin, tu vas aux toilettes et tu vois du sang partout.
Bien sûr.
Et toi, tu dis, et là, tu appelles le gynécologue tout de suite, et lui, il te dit ce qu'il y a à faire. Et donc, voilà. Et puis après, tu dis, bon, bah voilà, tu laisses passer quand même un certain temps, tu reprendras plus tard. Et là, le gynécologue te dit, en fait, il va falloir vous faire aider médicalement parlant.
Donc, au bout de combien d'années d'essai, on te dit justement que maintenant il va falloir.
Après, moi, je suis têtue, hein, parce que je voulais pas. Je pense qu'il me l'avait fait comprendre en sous-entendu, en off, mais que j'étais pas. En fait, quand t'es pas prête, tu veux pas l'entendre.
Bien
C'est
sûr,
quelque
je
chose
comprends.
que tu ne veux pas entendre parce que tu dis, si elle, la dame d'à côté, elle peut faire un bébé naturellement et que déjà, tu as déjà fait une grossesse naturelle, et ben ton deuxième, et ben tu peux l'avoir comme ça et coûte que coûte.
Ouais, donc
Et en fait.
t'étais dans ton
Ah,
truc, tu disais que toi ça allait
moi je
marcher, et
suis
puis
plus du tout.
oui, ça avait déjà
Ah, moi je suis
marché
plus du
en
tout comme ça.
plus. Ouais.
Moi je suis butée hein, comme fille. Hein,
Normal.
et puis au final, ça se passe 5 ans entre le diagnostic et l'acceptation. Et là, en 2018, après la fausse couche, là, t'acceptes un peu plus. Parce que tu dis, bon, voilà, tu fais une fausse couche, une première fausse couche. Bon, j'ai mis quand même un mois à m'en remettre. Hein. C'est compliqué hein, de se dire, ouais. Ok, on va le faire, mais c'est compliqué. Du coup, au moment où tu acceptes, tu fais OK, bon, bah voilà. Et là, on te dit, là, le gynécologue, il te dit, bon, là, on va faire une cure, on va provoquer les règles. Donc,
Oui, rebelote.
on va vous provoquer les règles. Donc, c'est encore, hop, aller rebelote des médicaments. Donc, je ne peux pas jouer. Et du coup, tu fais, bon, OK. C'est traitement à base de Dufaston. Le temps que les règles viennent, elles peuvent venir entre 7 à 10 jours. Donc, une fois que les règles sont là, il te dit, bah, là, il y a ça, il y a d'autres médicaments qui vont vous attendre, quoi.
Ah
Ah, d'accord.
oui.
Du coup, l'Ovitrel, les piqûres. Moi, donc le premier, le tout premier, c'était l'Ovitrel. Donc c'était des piqûres. J'avais des piqûres, mais je ne sais plus comment s'appelle le produit. Il y avait de l'Ovitrel et du Gonal. Ah oui, voilà, les piqûres de Gonal plus l'Ovitrel. Donc l'Ovitrel, c'est la grosse piqûre qui fait que si la follicule et tout est bon, bah hop, tac, tu l'injectes et puis après, tu as 3 jours pour concevoir. Il y en a
D'accord, mais
qui disent
alors ça, c'est des injections que tu faisais toi-même chez toi ou t'allais en cabinet? Comment ça se
Non,
passait?
non, non, non. J'ai une copine qui est préparatrice
En
en pharma
pharmacie, ouais.
et qui m'a appris à faire les piqûres.
Ok, donc tu pouvais le faire chez toi.
Je peux le faire chez toi, ouais. Je le faisais chez moi. Donc c'est comme la pilule, hein, c'est à heure fixe, heure régulière,
Ok. Oh.
c'est beaucoup de suivi. Donc tout le temps où tu as ce traitement-là, tu as un suivi à quasi toutes les semaines, voire tous les 15 jours, pour voir si les follicules sont assez matures
D'accord.
pour être fécondables. Donc une fois que du coup si le follicule il grandit pas correctement ou s'il est trop gros, eh ben tu peux rien faire. Tu
D'accord, il
peux
faut
absolument
trouver le bon juste milieu, on va dire, pour pouvoir
Exactement,
espérer que
c'est pour ça.
ça rende une grossesse, quoi.
Ça. Ouais, voilà. C'est pour ça aussi que tu as beaucoup de rendez-vous de suivi. Alors moi, j'ai eu beaucoup de rendez-vous de suivi, hein. Jusqu'à pendant très longtemps. Donc, on fait un premier protocole, donc avec le gonal et l'ovitrel.
D'accord.
Et du coup, là, tu es contente parce que ça a marché. Tu fais la première fois, ça a marché.
Du
Et puis au
premier
bout
coup.
du premier coup, en fait, je me suis réjouie trop vite. À une semaine de mon anniversaire, donc j'étais un peu malade, j'avais un peu mal. Donc du coup, comme c'est une grossesse un peu, entre guillemets, pas à risque, mais qui est
Oui, bien
touchy quand même,
surveillé, ouais, bien sûr.
à bien surveiller. La semaine d'avant, t'entends que tu vois qu'il y a tout et tout, tout fonctionne bien et tout. Et la semaine d'après, eh ben, il n'y a plus rien.
Ça, tu le découvres grâce à une échographie ou tu des pertes de sang?
Boule de sang.
D'accord.
Pareil, perte de sang. Tu vois, au premier, c'est pas comme la première fausse couche où j'avais une mare de sang. Là, c'était vraiment là, je commence à avoir deux, trois pointes rouges. Et là, j'appelle le gynécologue tout de suite. Et là, il me fait passer une écho. Il me fait, il n'y a plus rien.
Ouais, donc
Tu
deuxième coup de
comprends que
massue.
deuxième coup de massue et là tu te poses la question. Donc je me dis bon bah voilà on est à une semaine de mon anniversaire et tout déjà j'étais pas bien. Donc derrière tu passes un anniversaire quand même un peu bizarre parce que tu dis, ah bah ouais, ok, il y avait un cœur et puis là, il n'y a plus rien. Ok. Donc déjà, donc je dis à mon mari, bon bah là, on va faire une pause parce que c'est plus possible. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi sur ces traitements-là, c'est des traitements qui sont assez lourds, qui ont des effets indésirables que tu ne veux pas. Donc, tu as des maux de tête, enfin, tu as des nausées, tu as. Après, le corps est chacun a ses propres à
Oui,
ses propres
ressenti,
symptômes
bien sûr.
au traitement. Donc du coup, moi, je me suis sentie très fatiguée. J'ai eu des migraines, mais par la suite, horribles. J'en ai même fait, j'ai même passé un scanner pour savoir si tout allait bien, parce
Ah
que j'avais
ouais.
des, j'avais tellement mal à la tête que ça m'était jamais arrivé. J'avais des migraines, je pouvais pas. Au début, je pensais à des migraines optiques, et en fait, non. En fait, c'était lié, tout était lié en fait. Donc du coup, j'ai laissé reposer mon corps. On part en vacances, enfin voilà. Et en revenant de vacances, donc je reprends rendez-vous chez le gynécologue et je dis à mon mari, voilà, ce deuxième protocole, ce sera le dernier. Il marche, ok, tant mieux. Il marche pas, on s'arrête là.
Oui, c'est ce que j'allais te poser comme question justement. Est-ce qu'il a été question à un moment donné de dire on arrête au vu de
Oui.
la lourdeur et de la lenteur, on va dire, du
Du truc,
projet,
oui.
quoi? C'est vrai, c'est
Oui,
psychologiquement,
oui.
j'imagine, physiquement évidemment, mais psychologiquement, ça doit être très très dur.
Bah, psychologiquement, quand tu as entendu le cœur de ton bébé battre et la semaine d'après, plus rien,
Ouais.
tu te poses des questions. Tu te dis, et puis là, y a 1 000 questions qui te viennent, il y a 1 000. Tu passes par 1 000 émotions.
T'as
Franchement, tu
ressenti,
passes.
ouais, de la culpabilité?
J'ai ressenti de la culpabilité parce que bah, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu dis, bah, voilà, toi, tu as des ovaires qui sont malades. Et tu dis, c'est quand même, c'est de ta faute. Enfin, même si tu n'as rien demandé. Mais en fait, tu culpabilises. Et puis là, tu fais, OK, mais c'est pas possible, en fait.
Ouais.
Donc, on
Pendant toute
rentre de
cette
vacances.
période, t'as trouvé des personnes ressources qui t'ont aidé, d'autres mamans qui ont vécu la même chose pour t'épauler,
Non,
ou t'étais
parce
plutôt
que
seule?
je suis restée seule. Pourquoi? Parce que déjà, c'est quelque chose dont j'arrivais pas à parler. J'arrivais pas à parler et c'est quand même un sujet qui est quand même tabou et délicat. Et en fait, tu peux pas vraiment en parler parce que tu sais pas comment déjà toi tu vas réagir, comment et pourtant aujourd'hui le conseil que je donnerais à toutes ces mamans-là qui font des pertes de bébés, qui deviennent mamans, enfin voilà, des mamans des mamans sans vraiment l'être tout de suite, c'est d'en parler. C'est hyper important d'en parler. Pourquoi? Parce que on peut trouver une solution, on peut t'apporter beaucoup de solutions, beaucoup d'aide, surtout d'être entouré. On parle jamais aussi de ce sujet en couple. Donc, tu sais, il faut aussi savoir que bah, le papa, bon, ça n'a pas été le cas pour mon mari, mais il y a certains papas qui le vivent, futurs papas, qui le vivent quand même assez mal. Donc,
Oui,
il
bien
faut
sûr.
être. C'est une épreuve qui t'apprend aussi beaucoup sur ton couple. Donc, qui
Ah
t'apprend
bah oui,
aussi,
j'imagine.
à être solidaire, boudé. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, bah, il faut être là l'un pour l'autre.
Ouais, ça c'est hyper important, c'est crucial même.
Je pense que c'est des étapes de la vie, bah, qui font que tu peux aussi fonder un couple, hein, sur sa
Sûr.
sur sa sur sa force.
Bah
Donc c'est
oui, c'est un très bon test.
bah, c'est le plus beau test. Je pense que c'est l'un des tests les plus je dis pas le plus beau, mais c'est quand même assez compliqué, hein. Après, moi, mon mari m'a beaucoup aidée, hein, et du coup, donc on arrive fin 2019. Ouais, c'est ça. On arrive septembre 2019. Donc, je m'étais laissé énormément de temps. J'ai laissé passer énormément de temps.
Donc ouais, fin 2019, tu vous relancez dans une nouvelle
On part en vacances, on rentre en septembre, on se dit, bon bah voilà, allez, hop, on retente, mais sous un autre protocole. Donc,
D'accord.
juste une piqûre, et donc Donc du coup, on fait un traitement pour déclencher les
Ouais.
règles, un traitement, donc rebelote. Et puis là, après, on part sur plus des piqûres, mais sur sur des pilules, enfin des pilules, enfin des pilules magiques. Moi, j'appelle ça les pilules magiques, des
Ouais.
cachetons. Vraiment cacheton du début presque à la fin, sauf pour la piqûre la grosse piqûre qui va te dire ah bah ça y est.
Okay.
Et du coup on arrive, donc là on est en septembre, septembre, donc je commence le traitement en octobre. Bah je vais voir le gynécologue et là il me dit ah bah ça a tenu pour le moment, ça c'est là, donc là je vois quelque chose et tout, et du coup ok, donc c'est encore un peu, c'est encore fouillé hein, dans ma tête, parce que c'est le genre de truc où on dit bah vous avez, tu loupes le coche, bah c'est rebelote.
Tu m'étonnes. Donc là, tu dois être hyper. Enfin, tu dois plus trop savoir où t'en es entre le fait d'être réjouie, hein, t'es quand même contente, mais bon, tu veux pas non plus trop investir la grossesse au cas où ça se passe mal. Enfin, ça doit être hyper dur.
Exactement. Tu passes par mille émotions dans ta tête, en fait. En gros, c'est les montagnes russes. Tu vis mille émotions
Je
dans
veux bien
ta
te
vie.
croire.
Et du coup, j'ai pris, je prends, je fais le choix de ne rien dire. Je fais ce choix-là de ne rien dire, donc juste à mon mari. Et je fais je fais le choix, ce choix-là de ne rien dire jusqu'à très très tard.
Jusqu'à combien de mois, tu te rappelles?
Bah jusqu'à ce que ça se voie.
Ou là, tu pouvais plus le cacher.
La chance que j'ai eue, c'est que donc moi j'apprends que je suis enceinte fin 2019. Début 2020, et ben arrive le Covid.
Le confinement.
Donc, enfant est un bébé Covid. En fait, on l'avait dit, mais à nos proches, proches et famille, mais vraiment en cercle restreint, vraiment. Et puis, à un moment donné, et puis même, enfin, c'est des choses que tu vois, même de dos, tu te dis pas que je suis enceinte en fait. Il y avait juste à ce que je me tourne, et là, tu vois l'espèce de ballon qui me serre
Bah oui,
devant.
le gros ventre.
En fait, j'ai eu de la chance parce que sur cette grossesse-là, déjà, j'avais quitté mon boulot. Je suis restée à la maison. Donc, j'ai eu une grossesse vraiment extrêmement calme. Donc, je courais pas partout. J'avais moins de stress, mais le stress qui était là, c'était de savoir si tu sais que dans ta tête, en fait, tu n'arrives pas à faire la part des choses, ou de se dire voilà, je porte la vie, mais à tout moment cette vie-là elle peut s'éteindre.
Bien
Et là
sûr.
tu fais ouais, ok, tu réalises pas en fait. Et du coup, j'ai pris cette décision-là de ne rien dire, pour moi.
Ouais, bien sûr,
Pour
pour
moi.
te protéger, garder un peu ce secret comme ça pour vous,
Ouais,
quoi.
exactement. C'est ça. Et même de face, on voyait pas, on voyait que j'avais un petit ventre, mais on voyait pas que c'était. Tu pouvais penser que j'avais trop mangé, tu vois.
Bien sûr, ouais. Est-ce que
Mais
cette angoisse, elle a commencé un peu à disparaître au fur et à mesure des semaines qui passaient, ou tu l'as quand même gardée un grand moment pendant ta
non,
grossesse?
non, c'est une angoisse qui est là du début à la fin.
Ah ouais.
C'est un stress. T'essayes de faire descendre ce stress. T'essayes de quand même. Enfin, tu dis bon bah voilà, t'es quand même à la maison. Il n'y a pas de stress généré autour de toi. Nous, on a vécu, nous, le confinement, on l'a super bien vécu. Hein. Franchement, on était dans notre bulle, on vivait tous les trois. Enfin, voilà, on était vraiment très, très bien. Et du coup, même si le contexte fait que bah, t'as pas de, ça ne génère pas de stress, toi, tu as quand même une angoisse permanente. Donc, il faut
Oui.
savoir que en ayant fait deux fausses couches, derrière, sur toute ma grossesse, j'avais des médicaments à prendre. Donc, des médicaments bateaux, hein, le magnésium, le fer. Et le gynécologue, dès le départ jusqu'à la fin, te prescrit de l'aspégique de nourrisson. Toi,
D'accord.
tu sais pas à quoi ça sert de base. Donc, un jour, je lui dis, franchement, le petit sachet, là, la poudre, l'aspégique, là, du nourrisson, là, ça commence à... Moi, il me connaît, moi, je suis pas très médicament et j'aime pas ça. Et du coup, je lui fais, non, mais là, moi, ça me gave, l'aspégique, du nourrisson. Et là, il t'explique que, si, en fait, l'aspégique de nourrisson permet de fluidifier le sang,
OK.
permet de te fluidifier le sang, il te dit, mais à vos risques et périls, si vous l'arrêtez, vous avez un caillot de sang qui se forme,
Ouais.
et ben, il n'y a plus de bébé.
Ah, d'accord. Ouais, donc assez
Bah.
culpabilisant, enfin
Pas que il te fait comprendre ça avec ses mots. Après, ce gynécologue-là, je le connais parce que bah voilà, je sais comment il est. Il est un peu dur, mais
Il est franco, quoi. Il te
il
dit les choses clairement et c'est à toi de voir
voilà.
après, en
Il
conscience,
te fait
ce que
pas
tu veux faire.
voilà, il te fait prendre conscience pour que c'est assez de but en blanc, mais il te fait comprendre que ouais, non, c'est quelque chose que si t'arrêtes, c'est à tes risques et périls.
Ouais, bien sûr. Ouais, et donc toi, t'as
Après,
pris quoi comme décision?
bah, t'es disciplinée, hein. Moi, je
Ouais.
continue, hein.
Ouais, t'écoutes ce qu'on te dit, quoi, en bon élève.
Ah, moi, je suis pour ça, je suis. Tu me dis, ah, il faut faire ça, je fais
Tu
ça.
appliques.
Faut faire ça comme ça, je te l'applique, mais comme une bonne élève à l'école, hein,
Ouais, d'accord.
et du coup, la grossesse suit son cours, etc., etc.
T'avais des vomissements, ou comme pour la première, ou pas?
Ah oui, j'ai été malade du
Oui,
début.
d'accord. Moi, super.
Mais avec d'autres contraintes. Donc au bout de 3-4 mois de grossesse, bah, là, vient se pointer le syndrome de la côme. Tu fais, mais c'est quoi ça encore?
Ouais, alors qu'est-ce que c'est? J'en ai jamais entendu parler.
Alors, c'est un syndrome qui vient vraiment en fin de grossesse, quand ça tire sur tes ligaments.
Ok, d'accord.
Donc, ça tire. Bah, c'est. En fait, tu peux le faire, mais sans le savoir en fin de grossesse. Donc, tu sais, quand tu arrives à un point où tu vas marcher, être dans une voiture,
Ça devient
ça tire
compliqué.
sur les ligaments, que ça te fait mal, mais c'est pas grand-chose. Donc, du coup, moi, je l'ai eu en début de grossesse. Donc, là, on te dit, je fais une demi-heure de voiture, c'était le max que je puisse faire. Donc, faire
Ah
une demi-heure de voiture.
ouais,
Sans. Et quand on en faisait un peu plus, je serrais les dents
ouais,
parce que
t'avais
ça
vraiment
me faisait
mal. D'accord.
de la position assise dans la voiture à dehors, à me lever, bah ouais, c'est compliqué et ça fait mal parce que ça tire.
D'accord,
Je
ah
pouvais pas
ouais.
je pouvais marcher, mais je pouvais pas marcher
Ouais, très très longtemps.
autant que je le faisais. Et du coup, bah, ce syndrome-là, bah, quand tu fais des petites recherches et que le gynécologue qui te fait, ah bah voilà, c'est ça, et qui te dit, c'est des trucs qui arrivent en fin de grossesse d'habitude. Ah ouais,
Ouais, tu découvrais ce nouveau truc, quoi.
découvrais d'autres joies. Donc entre les vomissements, entre les nausées, les vomissements, plus ça. Ouais, tu fais wow, je sais pas si je vais la garder cette grossesse.
Ouais, ça commençait à faire pas mal, quoi.
Tu fais bon, t'as déjà un paquet de médocs. En fait, ton corps, ta grossesse, c'est un laboratoire, en fait. C'est un
Ouais.
laboratoire de chimie. Ah ouais, c'est pas possible. Donc ouais, ok. Et puis bon, bah finalement, hein,
Ça s'est
on suit la
passé.
grossesse. Donc,
Ouais.
ça s'est passé, mais alors pareil sur celle-ci, et plus que les deux autres où j'ai fait mes deux fausses couches,
Ouais.
j'ai été suivie toutes les semaines. Donc
Ah
toutes les
ouais.
semaines, on avait un rendez-vous pour voir si tout allait bien. Au moindre bobo, au moindre mal, il me prenait en urgence. Il avait pas forcément, même s'il n'avait pas forcément de place, il
Il
me
te
prenait en
prend.
urgence. Il me prenait quand même, il me disait. avec un battement de 24 heures ou un battement en fin de soirée, etc. etc. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que on te dit pas forcément, mais ça demande un très, très, un énorme suivi par rapport à tout ça. Donc, c'est vrai que bah, j'ai été suivie du début à la fin. Donc, les premiers temps, bah, toutes les semaines, voire tous les 15 jours, pour voir si, une fois que tu as fait ta piqûre, de regarder si tout va bien, si rien. Et puis, au fur et à mesure du temps, bah, après, tu as rendez-vous une fois par mois.
D'accord, ça se
Sur
passe un petit
mes
peu.
deux. Voilà, sur mes deux grossesses, j'ai eu rendez-vous tous les mois chez le gynécologue. Donc
Ok.
pour des contrôles de suivi sur
Ouais.
les deux grossesses. Plus sur celle-ci. Donc du coup, sur celle-ci, tous les mois. Donc on regardait vraiment. C'était pas des rendez-vous où il me prenait en 5 minutes parce que voilà, il y avait rien. Quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Et
Ouais,
quand il y a des
c'est
choses
vrai.
à dire, il me les dit. Donc du coup. J'avais des rendez-vous qui duraient 5 minutes comme une demi-heure.
D'accord.
Et au final, jusqu'à ce que je sois rattachée à un gynécologue de l'hôpital, donc à mon 7e ou 8e mois, j'étais en cabinet de ville. Donc
Okay.
ensuite, tu as un autre suivi. Comme il ne travaillait pas avec l'hôpital,
Ouais.
tu es suivi avec un autre gynécologue. Et puis là, tu fais ouais, bon, bah, ok, bon, le bébé, il va bien, il grandit bien. Tu flippes quand même parce que tu dis, bah, en fait, à tout moment, la vie, ça peut s'arrêter. Donc,
Ouais, tu restes avec cette angoisse-là qui est quand même
cette
présente.
angoisse-là qui est là, qui est présente tout le temps, en permanence, en fait, finalement, même si elle dort un petit peu, tu as toujours cette boule de stress qui te dit, ouais, non, ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, vas-y, mollo quand même.
Ouais.
Tu... Et puis bah voilà, on arrive très, très vite en juin. Ça devait être un bébé de juillet, mais il est arrivé
Un peu en
mi-juin.
avance, ouais.
3 semaines d'avance. Et du coup, bah, tu fais, OK, bon bah voilà, un soir, je me couche et je fais à mon mari, non, en fait, tu sais quoi, je vais quand même vous valider un drive parce qu'on ne sait jamais.
Ah oui, la maman prévoyante, quoi, jusqu'au bout.
Ouais. Et puis surtout, tu sais, nous, on venait d'être déconfinés, donc
Oui.
tu pouvais pas sortir tout le temps, tu pouvais pas faire tes. Bon,
Oui,
allez, hop, je fais mon drive au moment où je valide. Je me lève pour aller chercher ma carte bleue.
ouais.
Et là, je dis à mon mari, je crois que c'est pas possible, je vais pas pouvoir valider le drive parce que il y a une flaque d'eau là par terre.
Ah ouais, tu venais de rompre la poche des os.
Là, tu fais. Bon, donc je vois ma fille qui descend de son lit et qui va aux
D'accord.
toilettes et qui remonte. Et on lui dit, ah non, 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 il faut pas que tu remontes. Là, il faut que tu t'habilles parce que il était, je crois qu'il était 22h30, quelque chose comme ça.
Ouais.
Je fais, et son père lui dit, non, non, mais remonte pas, mets un pantalon de pyjama, prends ton sac à dos et tout, et on va te déposer chez tata, parce que maman, elle va aller à l'hôpital. Et là, tu passes par mille émotions parce que moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et du coup, on a fait garder la petite. On arrive à l'hôpital 23 h. Et
Ouais.
puis, je suis tombée sur une sage-femme, mais vraiment top. Elle avait déjà 30 ans de métier. Tu fais OK, ça peut que bien se passer.
Oui, tu te sentais en confiance avec cette dame.
Bah, au début, je ne savais pas qui c'était.
Mais bien sûr, ouais.
Dans toute ma folie. Et là, tu sais, en plein milieu, tu sais, j'avais des contractions, j'avais mal et tout. Et je lui fais, mais vous êtes qui en fait? Parce que je vous vois aller venir. Vous êtes qui? Ah bah c'est moi qui vais vous accoucher.
Enchantée.
Enchantée. Bon, je vous laisse les papiers. Je vous laisse les papiers de la péridurale, etc., etc. parce que là, on est presque à la limite de ne plus pouvoir vous la poser.
Ok.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, mon mari, il prend le papier, il dit. Il lit les pour, les contre, les machins, t'sais, les indications, les contre-indications.
Ouais.
Là, je regarde mon mari, je fais non.
Ah.
Viens, viens,
On fait ça.
on y va au talon. Pas de péridurale, mais donc elle me laisse, elle laisse faire le travail, donc jusqu'à ce que je sois à 10
Oh, et là, niveau douleur, intensité, ça allait, tu gérais?
Oh, mais my God! Alors, un homme qui a un rhume à côté, c'est du pipi de chat.
Ouais,
Et du coup, et ben, tu fais OK, allez. Et puis arrive le moment fatidique, 10. Et là, elle te dit, allez, maintenant, il va falloir pousser.
ouais.
Ah ouais, on pousse, vas-y, pousse. Et puis, à 5 heures et des brouettes, je ne sais plus quelle heure il était. Et ben bah Antoine est arrivé et puis voilà et puis bah c'est quand même une histoire qui se finit bien parce que au final bah j'ai eu mon bébé moi je l'appelle mon petit bébé arc-en-ciel
Ouais.
parce que pourquoi parce que bah deux fausses couches un bébé arc-en-ciel tu dis bah c'est quand même miraculeux ce qui t'arrive
Ouais,
donc
clairement, malgré le parcours assez chaotique, vous avez quand même, heureusement, une fin heureuse et c'était pas gagné, quoi.
Non, c'est pas gagné parce que si ce protocole-là n'avait pas fonctionné, on va jouer sur le canapé. Si ce protocole-là n'avait pas fonctionné, bah, y aurait pas eu, j'en aurais pas eu un deuxième. J'aurais pas fait, j'aurais arrêté. Donc, c'est vrai que c'est un parcours périlleux où tu passes par mille émotions, tu perds espoir, tu culpabilises, tu sais pas comment vraiment le vivre en fait. Donc tu vis dans un stress permanent, mais que tu caches, parce que finalement, bah, on te dit, mais non, mais regarde, aujourd'hui, tu as un bébé.
Oui, mais à quel prix? Enfin, il y a tout un passé derrière.
Voilà, mais à quel prix? Et au prix d'une santé,
Bien sûr.
c'est surtout ça, c'est qu'on ne te dit pas que quand tu te fais médicalement aider, tu passes déjà par mille émotions, tu remets ta santé entre les mains de spécialistes, même si c'est qu'un début, même si c'est qu'un début, il y a 3 milliards de protocoles qui existent pour ces femmes qui ne peuvent pas créer la vie naturellement
Ouais,
et
comme on
du
l'entend, enfin, de
coup
manière très facile.
très facile et je trouve que même encore aujourd'hui tu vois moi je sais que par exemple quand est venue la question de ma fille de comment on fait les bébés et ben j'ai été très très claire avec elle elle était elle avait quoi elle avait peut-être 9 ou 10 ans mais j'ai été très très claire avec elle et en fait un jour on tombe sur un j'étais sur RMC Découverte je crois
Ouais.
ah ouais mais je crois que ça devait être un signe parce que on en parlait quelques jours avant et en fait on tombe sur un reportage de un reportage sur les différentes grossesses donc du coup de la PMA à la GPA
Ouais.
que on pouvait avoir on pouvait avoir des parents, on pouvait avoir pas seulement un papa et une maman, mais on pouvait avoir deux papas, deux mamans, une
Bien
maman
sûr.
solo, on pouvait être adopté aussi. Donc du
Oui.
coup, je pense que ce reportage-là, il était tombé à pic. Et moi, j'expliquais à ma fille que bah il y a des que qu'il y a des mamans qui ne peuvent pas naturellement concevoir. Parce que bah, parce qu'elles sont malades, etc., etc., et que ou qu'il y a des couples qui ne peuvent pas, quand on a deux papas, bah, on ne peut pas forcément avoir un bébé et qu'on passe par la GPA. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que On dit pas assez les choses aux enfants parce que, tu vois, on parle pas assez de PMA, on parle pas assez de FIV. On t'apprend quand même ce qu'est une FIV, mais on te dit pas, on te dit pas la vérité sur les vraies choses. On met pas les mots, sur les vraies choses, en fait. Donc,
Ouais, bien
c'est vrai
sûr.
que, aujourd'hui, moi, je sais que, j'ai choqué beaucoup de mes copines, hein, en disant, en apprenant à ma fille que bah, on ne peut pas avoir un bébé tout le temps naturellement. On peut avoir aussi un recours à la médecine. Et beaucoup de mamans, beaucoup de femmes, en fait, au final, se remettent à ça parce que aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a dans bah, tout ce qu'on mange, il y
Oui, tous
a
les
tous les produits
perturbateurs.
toxiques, les éléments perturbateurs, et ben en fait, au bout du compte, et ben ça te fait ça, plus ça, plus ça, et ben en fait, au final, on le paye. On le paye. Très rapidement, en fait.
Bien
Et
sûr.
au prix de quoi? Au prix d'une santé. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important d'en parler parce que des mamans qui font des PMA, il y en a beaucoup. Au final, moi, j'en ai rencontré, après grossesse, j'en ai rencontré beaucoup, bah, surtout dans mes copines.
Ah
Et
ouais.
en fait, c'est en fait, t'es pas toute seule. Et en fait, t'es pas toute seule dans ton histoire parce que bah, pour beaucoup, au final, on souffre de la même maladie. Mais en fait, c'est une maladie qui n'a pas vraiment de sens pour tout le monde parce que
Oui, c'est un peu
bah,
invisible.
c'est une maladie invisible, exactement. Tu peux souffrir d'ovaires polykystiques plus d'endométriose. J'en fais
Les
le
frais,
parfait exemple.
oui.
J'en fais les frais. Moi, j'ai les deux. Moi,
D'accord. Ah oui, t'as été
j'ai
diagnostiqué pour
les
les
deux.
deux.
Voilà. Moi, j'ai été diagnostiquée pour les deux. Mais l'endo, j'ai été diagnostiquée très tard.
Ah oui.
Donc, je l'ai appris. J'ai été diagnostiquée en mars de l'année dernière. Donc, ça va faire un an.
D'accord, oui, c'est tout récent, en effet, oui.
C'est tout récent. Et là, je me dis, bah, je regarde mon fils et je vois le combat que j'ai parcouru. Parce que moi, j'appelle ça un combat. Hein. Franchement, un combat pour devenir un combat, tout simplement. Et il y en a qui ne prennent pas ça comme un combat. Donc, il y en a qui prennent ça comme quelque chose de normal. Faire des fausses couches, bah, c'est normal. Se faire aider, bah, au moment où tu dis bah, se faire aider, non, c'est pas normal. Et en fait, si. En fait, aujourd'hui, il faut normaliser la chose. Il faut arrêter de se dire que se faire aider, c'est mal. Qu'il ne faut pas avoir honte, surtout, d'en parler, parce que c'est quelque chose dans l'acceptation. Moi, j'aurais. Alors, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, j'aurais aimé en parler plus tôt. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé qu'on m'aide.
Ouais.
Dans l'acceptation de tout ça. Et au début, tu vois, tu dis, bah, en fait, la PMA, c'est quoi? Bah, c'est un protocole pour procréer, mais on va t'aider, on va te donner un coup de pouce. Et au final, eh ben, quand on te dit, je pense qu'il faut un temps, il faut que ces femmes-là se fassent aider. Dans le sens où il faut pas vivre cette aventure toute seule, en fait.
Ouais.
C'est vraiment mille émotions à la. C'est tout et rien en même temps. Tu peux passer des mois et des mois à être bien. Et puis, une fois que tout s'arrête, et ben là, tu as ton monde qui s'effondre. Tu commences à culpabiliser. Et c'est là où je trouve on n'aide pas assez ces femmes-là à libérer la parole autour de cette fausse couche, de cette histoire de fausse couche et la suite.
Ouais, bien
Parce qu'il y en
sûr.
a qui font une, deux, trois fausses couches et puis au final qui ont des difficultés par la suite à tomber enceinte parce qu'on ne leur
Ouais.
dit pas vraiment les choses. Et du coup, on ne se fait pas assez aider. Et même quand tu te lances dans cette aventure-là qui est la PMA, aussi bien la PMA que la FIV, et la FIV est encore la FIV est encore plus compliquée. Moi, je connais des mamans qui sont passées par la FIV, qui ont mis 10 ans avant d'avoir un bébé, et qui en fait sont passées par là parce qu'elles ont plus d'utérus, par exemple.
Ouais, c'est des gars qui arrivent. Ouais.
C'est des choses qui arrivent, et je pense que aujourd'hui, tu vois, quand je regarde Antoine, quand je regarde, enfin, même quand je regarde mes enfants, je me dis quand même que mine de rien, bah, j'ai de la chance d'avoir eu ce côté-là, d'avoir une grossesse naturelle qui est venue comme ça, mais avec son lot d'aventures, parce que bah voilà, un déni de grossesse, bah, c'est pas rien non plus.
Non, non, c'est sûr.
Un trimestre encore moins, et là avec Antoine, avec ce côté médical qui est très pesant au final, bah je me dis que j'ai quand même énormément de chance.
Ouais,
C'est
c'est
trop
ce que
fort
tu retiens
d'avoir
maintenant que l'histoire est faite. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil vraiment à une maman ou à des parents qui sont en ce moment même en plein parcours de PMA et qui peuvent parfois bah, perdre espoir? Qu'est-ce que vraiment tu voudrais leur partager?
Moi, j'ai envie de leur dire, à ces parents-là qui sont dans cette étape-là, qui partent dans cette aventure-là, qu'il faut pas désespérer, qu'il faut garder espoir, il faut pas se mettre la pression. Surtout, je pense qu'il faut vraiment, 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 mais vraiment pas se mettre la pression parce que, comme je te disais, sur ma première grossesse, tout est lié. Donc, aussi bien, la tête. Qui va avec le corps en fait.
Ouais.
Et il faut se laisser du temps, il faut laisser le temps au temps et accepter. C'est une grosse décision, c'est une grosse, quand même une grande aventure qui les attend parce que ça va être beaucoup de suivi, qui va être. C'est trop fort, Antoine. Va jouer là-bas. Allez. C'est vraiment. Il faut avoir un environnement sain,
Ouais.
déjà sain. Il faut que tout le monde soit aussi dans le même mood. C'est vraiment et accepter. Surtout, c'est l'acceptation. Une fois que tu acceptes de te faire aider, une fois que tu acceptes que moi, dans mon cas, ça a été j'ai mis 5 ans à accepter que j'avais des ovaires malades.
Ouais.
Une fois que l'acceptation est faite, une fois que tu arrêtes de culpabiliser, eh ben c'est là où tu te dis, voilà, c'est le moment. Il n'y a pas de bon et de mauvais moment, mais quand tu fais un bébé en PMA, c'est un calcul. Après, ça devient vite un calcul, en fait.
Ouais, tout à
Donc,
fait, ouais.
du coup, tu dis, bon, il faut que ça soit là, il faut pas que je loupe, mais il faut y aller, faut y aller plus zen. Il faut vraiment, et vraiment le plus important, c'est l'accompagnement du spécialiste qui fait tout en fait. Donc c'est vrai que c'est une aventure qui fait peur. Moi, la première, hein, j'ai été flippée la première, hein, mais qui nécessite un grand accompagnement et une grande écoute surtout.
Ouais, c'est important.
C'est important. Moi, je pars du principe où c'est très important de se faire accompagner parce que tu vis 1 000 émotions. Tu vis 1 000 émotions à. Tu vis
À la
1 000 émotions.
minute, quoi, bien sûr. Et puis ne
Un
pas
jour, on
hésiter
dit,
non
bah.
plus à changer aussi de professionnel si parfois on se sent mal accompagné, mal écouté. Voilà, ça, savoir qu'on a
Exactement.
le droit de frapper à d'autres
C'est
portes.
se faire accompagner par le. Il faut avoir vraiment beaucoup de confiance en son gynéco. C'est vraiment très important parce que c'est lui qui va t'accompagner tout le long du truc, hein. Donc, moi, mon gynécologue, je le connais depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, parce qu'il me suit depuis ma première grossesse. Et puis d'ailleurs, c'était. Du coup, il faut vraiment avoir confiance, il faut se faire accompagner et vraiment quand ça marche pas les premiers temps, il faut déculpabiliser. Il faut, ça peut marcher au bout de la, je sais pas, troisième, quatrième, cinquième, sixième fois, mais il faut déculpabiliser autour de ce sujet qui est tabou, qui est la fausse couche. C'est de se dire que si ça va pas, eh ben on va voir on en parle. Et il faut se faire accompagner. Et ne jamais perdre espoir, parce que je suis la preuve vivante qu'au bout de, au bout de 5 ans et de 2 protocoles, bon, moi j'ai de la chance, j'en ai fait 2, mais il y a des femmes qui passent une vie. Enfin, bah,
Ouais, bien sûr,
une
ouais.
vie. Qui passe une vie, et du coup, c'est compliqué. C'est passer mille émotions, c'est passer de tout à rien, c'est montagne russe assez régulièrement. Donc, vraiment se faire accompagner, parler, en parler, et arrêter de culpabiliser. Si ça marche pas, et ben c'est pas grave, on y retourne, on laisse son corps se reposer et on y retourne.
Ouais.
C'est là où la chose est belle, c'est que le jour où ça arrive, bah, ça arrive souvent quand tu t'y attends le moins.
Ouais.
Ça te tombe dessus. Mais il faut déculpabiliser autour de tout ça. La PMA, bah, aujourd'hui, bah, j'ai envie de te dire que c'est presque devenu, c'est pas devenu normal, hein,
Non, mais
mais
c'est assez commun finalement.
bah, c'est assez commun. Et en fait, au final, on te dit pas, comme on n'en parle jamais, et ben, on te dit pas que c'est normal. C'est que ça va finir par être normalisé, hein. C'est que sur les années à venir, c'est quelque chose qui va presque devenir normal, parce que beaucoup de femmes auront recours à cette PMA, parce que bah, avec tous les éléments perturbateurs endocriniens avec lesquels on vit, et ben, la femme de plus tard, et ben, elle va avoir de plus en plus recours à ça.
Ouais.
Mais voilà, mais ne pas perdre espoir, et déculpabiliser. C'est vraiment mes maîtres mots, c'est déculpabiliser, garder espoir et se faire accompagner. C'est mes trois mots, c'est les trois mots que j'ai envie de mettre sur cette PMA, ou même sur une FIV, hein. C'est pareil, hein, c'est l'accompagnement, la déculpabilisation et l'espoir.
Ouais,
Moi, je vois par
ok.
exemple ma voisine, elle qui a eu l'utérus, ben, elle a eu son petit garçon qui est né 15 jours après Antoine. Et ben, elle a eu son petit garçon avec un parcours de FIV et 10 ans de 10 ans
Oh.
et un combat de 10 ans. Donc,
Ah ouais. Ouais,
il
c'est
y a
fou, hein.
beaucoup de belles histoires qui se finissent bien. Et en
Oui, bien
général,
sûr.
elles se finissent vraiment bien.
Bien
Après,
sûr,
aujourd'hui,
oui.
il faut se dire que la nouvelle maman génération, elle a entre 35 et 40 ans.
Aussi, ouais, bien sûr.
Moi, je vois beaucoup de mamans, quand Annaline est rentrée à l'école, par exemple, je voyais beaucoup de mamans qui avaient déjà 30 ans passés.
Ouais, bien sûr, les femmes ont des enfants de plus en plus tard.
C'est ça. C'est avoir des enfants de plus en plus tard, mais voilà, elles aussi, bah, elles prennent des risques, et puis, bah, même si la grossesse est à risque, c'est un risque à, enfin, pas au prix d'une santé, mais c'est une aventure à faire. C'est
Ouais.
une aventure qu'il faut vivre. Je pense vraiment, vraiment, vraiment que si on n'en parle pas, si on n'en parle pas, et ben, rien ne peut bouger. Rien ne
Ouais.
peut bouger, et les parents qui sont dans ce cas-là, et ben, ils se font pas accompagner et ils ont peur. Ils ont peur parce qu'on ne les accompagne pas, vraiment.
Oui, d'accord.
Et de se dire que si c'est pour finir comme moi, où moi j'ai mis 5 ans à me faire aider, et ben ouais, non. C'est pas la peine. En fait, j'aurais dû me faire aider et accepter que déjà, j'étais malade, que c'est une maladie invisible, hein, mais qui fait quand même très très mal. Et
Ouais.
ça fait aussi mal que bah, c'est pas soignable. Tu dis, bah, le seul pansement que tu as, bah, c'est la pilule. Et puis, bah, voilà. Mais voilà, il faut se faire aider, accompagner et garder espoir. Parce que
Bon.
tout.
Bah écoute, merci, merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci justement aussi de lever le voile sur ces sujets qui sont trop peu abordés. Et puis bah bravo aussi hein, pour ce parcours, pour ta ténacité à toi et à ton mari. Et comme quoi ça peut très bien se finir si aujourd'hui tu as ton petit Antoine sur les genoux et ça vaut tout l'or du
Bah,
monde.
ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix. Et surtout, derrière, bah, moi, j'ai pris 3 ans. Moi, j'ai pris 3 ans pour voir mon fils grandir. Et c'est quelque chose que je ne regrette pas. Au final, bah, quand on s'est connus, il y a 3 ans maintenant, bah, Antoine, c'était un bébé. Et j'ai pris ces 3 ans-là pour voir mon fils grandir. Et ça vaut tout l'or du monde. Et finalement, tu vois, bah, je suis bien contente de l'avoir fait. Et
Bah oui, c'est sans regret.
d'être arrivée. C'est sans regret d'être arrivée au bout de cette aventure. J'ai eu des bobos, j'ai eu plein de trucs. Je suis passée parmi l'émotion. Mais quand je regarde mon fils aujourd'hui, bah, je me dis, voilà, c'est fait, c'est fait. Le passé, bah, voilà, ce qui s'est passé est passé. Mais ça reste quand même, ça te hante encore un petit. Moi, je sais que ça me hante encore un petit peu, tu vois, de me dire, ouais, non, j'ai fait aussi des fautes avant d'en arriver là, psychologiquement. Et en fait, c'est finalement quand t'en parles, c'est libérateur, déjà de un. C'est une histoire que je raconte pas forcément tout le temps, pourquoi? Parce que de peur de me faire juger. Parce que,
Ah oui.
bah, ouais. Donc, toi, tu te dis, bon, bah voilà, toi, t'es passé par une PMA. L'autre maman, elle a eu son bébé naturellement et puis elle t'en a fait 4 d'affilée. Et puis, j'ai eu peur du regard des autres, surtout. Parce que bah, déjà mes enfants ils ont déjà 10 ans de différence et puis tu sais en France on te met dans des cases donc
Bien
il faut
sûr, très
être
vite,
papa
oui.
maman il faut que les enfants ils aient pas plus de 4 ans de différence parce que sinon c'est trop enfin
Bien sûr.
voilà entre 2 et 4 ans moi mes enfants quand on me regarde ah bah tes enfants ils ont 10 ans de différence bah c'est pas trop dur et tout. Et en fait, c'est à cause de ce genre de jugement-là que tu peux pas forcément raconter ton histoire parce que ils comprendre pour toi ils comprendraient pas le fait que tu puisses être malade parce que c'est des mal c'est cette maladie ces maladies-là sont des maladies invisibles on peut pas comprendre ton parcours et en fait bah, au final bah tu te sens jugé en permanence. Moi je me sens jugé en permanence à chaque fois que je dis que mes enfants. Mais bah, j'ai déjà une grande fille de 13 ans. Ah bon?
Ouais. Ah ouais, tu ressens quand même
Ouais, et bah en
ce
fait,
truc-là.
je me sens jugée en permanence. Et du coup, bah, j'évite de raconter ce qui a été mon histoire, ce qui a été ce parcours-là, ce qui a été. C'est pas un enfer, hein, mais cette aventure-là qui te fait vivre mille émotions. Et au final, bah, moi, je me sens tellement jugée que j'ai encore du mal à en parler. Mais aujourd'hui, tu vois, je le fais en toute confiance et en toute bienveillance parce que je sais que bah, derrière, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement parce que je me sens en confiance. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parle, mais j'ai mis très, très longtemps à en parler. J'ai mis. Je crois que j'ai dû mettre ouais, 2 ans, bien 2 ans avant d'en parler. J'ai mis avant de dire que j'avais des maladies invisibles, bah, j'ai mis aussi du temps. Et puis je pense que ouais, on n'accompagne pas assez ces personnes-là qui sont atteintes de maladies invisibles et où on te dit mais non mais c'est un mal de ventre, prends un spasmon, prends un Doliprane et puis tu verras, ça ira.
Ça, c'est le grand problème. C'est ce qu'on dit souvent à toutes ces femmes, mais c'est normal, tu as mal pendant tes règles, alors que non, ce n'est pas normal.
Exactement. Tu as mal pendant tes règles, c'est normal. Tu as mal au ventre, bah, c'est normal. Non, c'est pas normal.
Non, on n'écoute
Non,
pas
c'est
assez
pas
les
normal.
femmes, c'est sûr.
C'est sûr. Et c'est pareil pour tout ce qui est fausse couche, PMA et FIV. Ça, c'est des
Ouais,
parcours
oui.
où on t'aide pas assez. Et encore, je trouve qu'ils ont fait quand même une belle avancée parce que maintenant, de ce que j'ai compris, les femmes subissant des fausses couches auraient le droit à des congés
Oui,
spéciaux pour s'en
c'est
remettre.
nouveau en
Déjà,
effet, ouais.
on avance dans le schmilblick, on arrête de banaliser, on arrête de banaliser ces mots forts qui sont la fausse couche. Et en fait, on te dit que c'est quand même non. Certaines entreprises aussi mettent en place des congés
Bien sûr.
spéciaux pour les cycles
Ouais.
menstruels. Là, on avance aussi. Mais c'est vrai que derrière tout ça, bah, y a encore un long chemin à faire et on t'accompagne pas assez. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut accompagner tous ces parents qui passent par ces étapes-là, qui ne peuvent pas donner procréer la vie naturellement comme pourraient le faire Monsieur A et Madame A. Enfin voilà, il faut pas avoir peur d'en parler. Moi, j'ai eu très peur d'en parler. J'ai eu très. Ça m'a fait très mal de me dire, ah bah, je peux pas faire la vie toute seule, or que je l'ai déjà fait. Et je pense que culpabiliser, bah, ça te fait culpabiliser, ça t'es pas bien. T'es pas bien. Et si t'es pas bien dans ta tête, eh ben, tu peux pas procréer correctement. Avec ou sans assistance.
Ouais,
Sans aide
tout est
médicale,
tellement lié.
tu peux pas procréer. Tout est tellement lié. En fait, une fois que tu comprends que tout est lié, eh ben là, tu te dis, ouais, ok, eh ben on va y aller, mais en mode YOLO. Et voilà. On va le faire, mais une fois, mais bien.
Ouais,
Ça
d'accord.
peut marcher, hein. Non, ça marche, hein.
Ouais, bien sûr.
Et puis après, bah, tu dis, bah, c'est comme un jeu vidéo, en fait. Tu fais ton game over, et bah, même joueur joue encore.
Ouais,
Et tu
ouais,
joues, jusqu'à ce que ça vienne. Et puis quand ça vient, bah, voilà.
c'est génial. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marie, pour ces jolies confidences. N'aie aucune crainte sur le fait que ton récit sera écouté par les bonnes personnes, voilà, qui va atterrir dans les bonnes oreilles et que tu vas recevoir, je pense, un beau shoot d'amour et de bienveillance de la part de toutes les super mamans qui écoutent le podcast. Et encore une fois, bah, bravo pour ce parcours, bravo pour ta résilience et merci d'en parler aujourd'hui et de me faire confiance pour déposer tout ça.
Bah, je t'en prie, Lou, merci surtout à toi de pouvoir mettre des mots et de libérer la parole parce que bah, c'est quand même quelque chose de difficile. Et sur tous les épisodes qu'il y a sur Super Mama, et ben, toutes les mamans peuvent s'y retrouver et derrière, bah, elles peuvent se sentir moins seules dans leur parcours, aventure. Que ça soit cancer du sein quand on a eu ces épisodes autour de l'Octobre rose aussi bien après derrière enfin beaucoup d'épisodes comme ça où la maman se retrouve moins seule. Moi, même si je suis maman de deux enfants, moi j'adore écouter ces épisodes-là parce que ça te met déjà du baume au cœur. Tu te sens moins seule. Tu te sens moins seule et surtout, ça libère la parole. Et je pense que toutes ces mamans se sentent aujourd'hui apaisées d'avoir raconté leurs histoires, d'avoir partagé et de recevoir autant d'amour. Enfin, c'est quand même incroyable. Les réseaux sociaux, on le diabolise, mais finalement, au final, quand tu prends les vraies choses, eh ben, les bons éléments, eh ben, tu te dis que ben, voilà, en fait, il y a beaucoup de mamans qui sont dans le même cas, qui a beaucoup d'amour. Et puis, c'est surtout que tu te rends compte que c'est plus facile face à des inconnus que d'en parler que d'en parler à tes propres proches. Donc
Ouais, c'est
c'est vrai
vrai.
que c'est assez libérateur. Tu vois, la preuve en est, c'est que je te raconte mon histoire et que c'est une histoire que j'ai mis très très longtemps à raconter parce que je me suis jugée, tout simplement. Et aujourd'hui, on s'en fout.
Ouais, mais
Je
c'est
m'en
top
fous.
et bravo bah, de ce courage aussi d'en parler, parce que je sais que c'est pas facile et c'est une belle preuve de générosité et j'espère aussi que ça t'a fait du bien de retracer tout ça, quoi.
Ouais, ça m'a fait du bien avec un peu un peu d'émotion, hein, parce que c'est quand même
Oui, c'est sûr.
toujours l'ascenseur émotionnel. Tu dis que un jour t'as la vie, un jour tu l'as plus, et puis tu recommences, et puis ça recommence, et puis tu recommences. Donc c'est un éternel recommencement, mais une fois que c'est là, et ben c'est là. Il faut pas perdre espoir. Et comme une maman me le disait, je lui avais qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'a dit que je lui avais donné beaucoup d'espoir dans son parcours, parce que elle aussi était passée par là, et que finalement, en voyant mon fils, en voyant tout ça, et ben elle m'a dit, t'es la preuve vivante que tout peut arriver. Donc aujourd'hui,
Ouais.
il faut vraiment 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 garder espoir, et l'espoir c'est ce qui fait que ta vie prend sens, en fait, finalement.
C'est un
Je
moteur.
vis dans le monde des bisounours, hein, mais c'est vrai que je préfère voir le soleil se lever,
Ben oui.
et de me dire que voilà, tout tu peux vivre comme ça. Et je vis dans un monde où le monde va pas mal, en fait. Le monde va bien.
Ouais,
Alors que non,
t'es
mais
pleine d'espoir et comme de positivité, c'est top.
voilà. Je pense qu'une fois que tu te lances dans des aventures comme ça, PMA, FIV et tout, je pense que tu ne retiens que le positif et plus le
Ouais.
négatif. Bon, on peut encore juger, hein, parce que voilà. Vous avez encore. Non, je me
Ouais.
sens encore jugée, parce que mes enfants, ils ont tel âge et tel âge, mais je me sens énormément jugée, et c'est ça qui fait que on devrait avancer, parce que voilà,
Ouais, on a
on
bon
n'élève pas
espoir
des enfants.
que ça change et que ça évolue, que les mentalités
Voilà,
évoluent et
c'est
c'est
ça.
pour ça qu'on travaille tous
Exactement.
les jours, justement.
C'est ça, exactement.
Bon, bah merci beaucoup Marie, en tout cas pour ton récit. Plein de belles choses à ta jolie famille, à ta grande fille, à ton petit garçon, à ton mari également. Et merci
Et
encore
bah
grandement
beaucoup.
pour
Merci aussi. À
Et à plus
bientôt.
tard.
Merci encore à Marie de m'avoir fait confiance pour déposer son récit ici, au micro de Super Mama. Je sais à quel point il peut être difficile de se confier sur des sujets si durs et si intimes. Pour toutes celles qui nous écoutent et qui sont actuellement en parcours de PMA, je vous envoie toute ma force et surtout n'oubliez pas de garder espoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite!